Bonjour. Ça me fait plaisir de me retrouver à nouveau parmi vous. Pour ceux qui étaient là, j'avais eu la joie de venir une première fois en février dernier. Et j'avais beaucoup apprécié de faire votre connaissance en tant qu'église, avec les uns les autres aussi. Et c'est vrai, j'ai ressenti cette communion fraternelle dont vous parlez, cette joie qui vous habite, les liens qui vous unissent. Et voilà, ça fait plaisir de découvrir une famille sœur. Moi, je suis membre à l'église Action Biblique de Meigné, donc en Suisse voisine, on va dire. Et donc, on est presque entre Thonon et Meigné. Il n'y a pas beaucoup d'autres églises. Hein. Quelque part, on est église évangélique, donc on est des églises voisines. Et donc, ça nous fait plaisir d'être là aussi en relation avec vous et de pouvoir vous connaître. D'autant plus qu'on est une église qui a beaucoup à cœur aussi la région, toute la région frontalière. On est une église comme ici, je pense, hein, avec des mélanges transfrontaliers aussi, des gens qui travaillent d'un côté, qui vivent de l'autre côté, etc. Et donc, dans notre communauté à Meigné, il y a près de la moitié des gens qui viennent de France et qui sont à proximité de la frontière et qui viennent dans notre église. Et on apprécie de pouvoir travailler à ces liens dans une région où cette relation-là, comme vous le savez, elle est parfois un petit peu tendue. Et en tout cas, habitant à Genève, on la ressent, cette tension, parfois. Et on croit que justement notre rôle en tant que chrétien, eh bien, c'est de montrer que d'autres relations sont possibles et que les relations du royaume de Dieu sont plus fortes que les tensions économiques ou culturelles qu'on peut parfois avoir. Alors, ce qui nous a aidé, c'est cet ordre de mission que Jésus donne à son Église, lorsqu'il dit d'aller de Jérusalem et de la Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On comprend bien qu'on a un témoignage à donner localement, hein, à notre Jérusalem, on va dire, qu'on a un témoignage aux extrémités de la terre à donner. Puis parfois, il ne faut pas oublier non plus qu'on a des Samaries autour de nous, des régions frontalières, des gens, c'est souvent ceux qui sont un peu proches mais différents avec lesquels on a le plus de tensions, de compétitions, et que ces régions-là, on est appelé à avoir un cœur particulier pour elles. Donc nous, on prie aussi vraiment pour cette région de Thonon, pour Douvaine, pour votre église aussi, et on vous souhaite vraiment aussi de pouvoir être un témoignage rayonnant toujours dans cette région. La dernière fois que j'étais venu ici, j'avais parlé de l'encouragement et de Philippiens 1, et aujourd'hui je voulais proposer du coup de continuer dans la logique avec Philippiens 2, et de parler d'un principe important aussi dans la communion fraternelle, un principe important dans les relations les uns avec les autres, et un principe, une valeur clé du royaume de Dieu, qui est un principe de générosité, un principe de don, un principe de circulation de ce qu'on reçoit. Finalement, je dirais, pour résumer, c'est le principe du don de soi, qui est au cœur de la foi chrétienne et qui est aussi appelé au cœur de ce que nous vivons. On le sait, mais dans la pratique, c'est pas toujours facile à vivre. Alors dans Philippiens 1, Philippiens 2, on est en plein dans ce contexte-là, parce que Paul, lui-même, il écrit à une église avec laquelle il a des liens très forts. C'est une église qui le soutient financièrement, c'est une église qu'il aime énormément. Et dans cette épître, on sent il y a le thème de la joie qui est très présent, alors que Paul est en prison. Paul qui est justement dans une attitude de don de soi, qui se sacrifie, mais qui se réjouit d'autres choses. Pour lui, ce qui compte, c'est pas tellement sa situation à lui, c'est que l'évangile progresse. L'évangile progresse et il s'en réjouit. C'est ce qu'il dit dans le premier chapitre des Philippiens. Il dit finalement, c'est dans ce premier chapitre de Philippiens qu'il dit « Ma vie m'importe peu, ce qui compte pour moi, c'est qu'à travers mon corps, eh bien, que la grandeur de Christ soit manifestée, que ce soit par ma vie ou par ma mort. » Et il dit au verset suivant, « Pour moi, vivre c'est Christ, la mort m'est un gain. » Une phrase assez choc comme ça quand on y pense, mais qui veut dire justement que Paul est entièrement dans cette logique du don de soi. Pour lui, ce qui compte, c'est quelque chose de plus grand, de plus large, et que sa vie, elle est au service de cette cause. Et ce n'est pas un message facile à entendre aujourd'hui dans un temps un petit peu plus individualiste, plus centré sur nous. On a plutôt envie que l'évangile soit bon pour nous, plutôt que nous, bon pour l'évangile peut-être quelque part. Moi, je travaille au réseau évangélique suisse, l'équivalent du CNEF côté suisse. Et mon but dans mon travail, c'est de voir des personnes, des églises, des organisations qui soient dans une logique où elles ne s'intéressent pas juste à leur succès au sein du royaume de Dieu, mais qu'elles s'intéressent au succès du royaume de Dieu dans son ensemble, et qu'elles saisissent qu'elles en sont une partie. Et c'est une évidence, et pourtant ce n'est pas toujours évident à vivre, à saisir dans la pratique. Et dans ces plateformes, on a envie d'encourager ces valeurs-là, de réaliser que, on a le privilège d'être une partie d'un projet immense, et que c'est un privilège de pouvoir se réjouir des succès des uns et des autres, de l'avancement de chacun, pouvoir porter ensemble aussi nos fardeaux, comme on l'a fait dans ce temps de prière, parce que finalement, en tant qu'Église, en tant que personne, en tant qu'organisation, etc., on fait partie d'un grand tout qui est conduit par Dieu. Alors aujourd'hui, je vous propose de lire Philippiens 2, les versets 19 à 30. Et en fait, on est dans une phase de mise en pratique de ce principe de générosité, de don de soi. Juste avant, Paul a encore expliqué au début du chapitre 2 que le modèle sur lequel chacun devait s'appuyer, c'était Christ. Et avant ça, il dit aux Philippiens, il leur dit, vous justement, vivez dans cette attitude-là où vous considérez les autres comme plus importants que vous. Vivez en plein accord, dans l'unité justement. Voilà, ne cherchez pas, ne faites rien par esprit de rivalité ou par un désir de gloire vaine, sans valeur, mais considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. Et ensuite, il nomme l'exemple de Christ, il dit, regardez Christ, il avait tout et il a choisi de se dépouiller pour se donner pour nous. Et puis il continue, là on rentre dans une phase très pratique, et on se rend compte de comment, dans la pratique, dans la relation entre Paul et cette église, ça s'est vécu, cette générosité, cet esprit de don de soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois un modèle individuel, parce qu'on voit Paul, puis on voit une église aussi. Donc il y a à la fois un modèle aussi pour voir comment, en tant qu'église, pouvoir vivre cette générosité. Alors je vous lis Philippiens 2, les versets 19 à 30. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, que vous aviez envoyé afin de pouvoir pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que moi, je sois moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie. Où est-ce que j'en étais ? Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. On dit parfois qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On dit que c'est particulièrement vrai dans certains sports de combat, comme dans la boxe par exemple. Parce que dans la pratique quotidienne, on sait que ce n'est pas toujours simple. On préfère le principe « je reçois, je garde » que le principe « je reçois, je redonne ». Et pourtant, dans ce qu'on a ici, on est à fond dans un principe de circulation où « je reçois, je donne ». Et quand on regarde comment ça fonctionne autour de nous, c'est « je reçois, je garde ». Et j'essaie d'accumuler autant que possible. Et je garde pour moi, j'accumule. Il y a pas mal d'enfants dans l'église, et vous savez, avec les enfants, dès le jeune âge, ça c'est une source de tension, de conflit permanente. C'est quand eux, ils ont quelque chose, ça c'est à moi. Combien de fois est-ce qu'on l'entend ? C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et quand c'est à eux, c'est pas au petit frère, c'est pas à la petite sœur, c'est pas à l'autre. Il faut leur apprendre à partager, et c'est très dur. Parce que très rapidement, on a cette envie qui vient de dire, je reçois, j'ai pas envie de redonner ce que je reçois, je veux le garder pour moi. Et ici, on assiste à quelque chose de différent où tout ce que chacun reçoit, il le redonne. Quelque part, peut-être on peut afficher une des images. Quand on est dans un... Si ça marche, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Et quand ça marche, vous avez une image là-haut?
Ouais.
C'est bien. Vous avez une mare là actuellement, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on a de l'eau qui stagne? Donc c'est un récipient qui reçoit de l'eau mais qui ne la redonne pas. Cette eau, au bout d'un moment, elle pourrit. Qu'est-ce qui se passe dans une pièce qu'on n'aère pas, donc qui n'est pas traversée par de l'air qui circule? Elle commence à sentir le renfermé. Ce qui est important, c'est qu'on ait de la circulation, comme la diapo suivante, c'est-à-dire de l'eau qui circule, de l'eau qui est reçue et qui est redonnée. C'est un endroit qui est beau, c'est un endroit qui est frais, c'est une eau qui est bonne à boire. Et dans la vie, je crois que c'est pareil. Dans qui est Dieu et dans ce qui nous appelle à être, ce qu'on reçoit, on est appelé à le redonner. C'est exactement ce qui se passe ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une circulation incroyable. Hein. Paul est allé dans l'église des Philippiens, il s'est donné, il a enseigné, il a pris des risques. Ensuite, il est parti. Les Philippiens, eux, ont donné à Paul, ils l'ont soutenu financièrement, ils lui ont fait un don. C'est pour ça qu'Épaphrodite est venu, parce qu'il n'y avait pas de virement bancaire, hein, donc il fallait quelqu'un qui vienne. Donc c'est Épaphrodite qui vient, qui amène le don à Paul pour le soutenir. Ils ont soutenu, ils ont aidé Paul, donc l'église aide Paul, l'église donne à Paul. Paul leur renvoie Épaphrodite, il aurait pu le garder pour lui, hein, parce qu'il l'aimait beaucoup cet homme. Mais non, il décide de le renvoyer, et il demande à l'église de l'accueillir avec joie. Et Paul dit qu'il aimerait aussi leur envoyer Timothée, donc son fils spirituel, son collaborateur le plus cher, le seul qu'ils comprennent dans la situation dans laquelle il est, parce que les autres, ils n'ont pas la vision large, ils pensent qu'à eux, dit Paul, mais Timothée, lui, il a cette vision large, il pense large, il a à cœur l'œuvre de Dieu plus largement que juste là où il est, et du coup, Paul est prêt à envoyer cet homme-là, qui lui est tellement précieux, il est prêt à l'envoyer là-bas de nouveau. Les Philippiens, eux, vont pouvoir être encouragés, et Paul leur demande de leur renvoyer leurs encouragements, de leur renvoyer leur joie, parce que ça va lui faire du bien à lui qui est en prison. Et Paul dit, et puis ensuite, si tout se passe bien, je peux même venir me redonner moi-même et venir moi vous voir. Donc on voit ça circule tout le temps. On donne, on reçoit, on redonne, on reçoit. Et c'est pas étonnant. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment un principe même du royaume de Dieu. Et je crois que c'est ce qu'on est appelé à vivre à tout niveau, en tant qu'église, en tant que personne. C'est à donner ce qu'on a reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Parfois, on aimerait donner ce qu'on n'a pas reçu. Et il faut accepter ce qu'on a reçu. Des fois, on voudrait plus, etc. Pour pouvoir donner plus, mais peut-être pour avoir une position, pour avoir une influence, etc. Mais acceptons de pouvoir donner ce qu'on a reçu. Parfois, c'est peut-être petit. C'est peut-être... peut-être c'est deux pains et quelques poissons. Peut-être que c'est deux petites pièces. Et pourtant, Dieu valorise énormément ça. À travers toute la Bible, on voit que ce que Dieu nous demande, c'est de lui mettre à disposition ce qu'on a reçu. Si on creuse un petit peu, on se rend compte que cette attitude reflète qui est Dieu. On l'a dit juste avant, Paul dit qu'il faut imiter Christ. Et si vous regardez à la Trinité, on peut mettre la diapo suivante, c'est une image... qui vous fait peut-être pas penser premièrement à la Trinité. C'est le recyclage. Mais il y a comme trois éléments qui circulent tout le temps. Et en Dieu, c'est comme ça aussi. Si vous lisez par exemple Jean 17, hein, qui est un des plus beaux passages sur la Trinité, on se rend compte que voilà, tu m'as donné, tu me les as confiés, je les ai reçus, je te les rends. Tout le temps, c'est comme ça. Ça circule tout le temps. Jamais Jésus va dire au Père, merci, tu me les as donnés, je les garde pour moi. Non, tu me les as donnés, je te les rends, tu me les as confiés, j'en ai pris soin, j'ai apporté ma valeur ajoutée, je te les rends, tu me les rends, etc. Et ça circule tout le temps au sein de la Trinité. Entre Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on est dans quelque chose dans une circulation d'amour, de louange, dans une fête, dans une générosité permanente. Et à un moment donné, ils ont décidé d'élargir ça à la création. Et ils ont dit, ce qu'on vit entre nous, on veut le vivre aussi encore plus largement. Donc ils nous ont créés avec cet ADN-là à la base, pour que cette circulation se poursuive, pour que nous, on reçoive et qu'on redonne entre nous, communauté faite à l'image de cette trinité faite de dons de soi, pour qu'on le vive entre nous, puis entre nous et Dieu aussi, pour que ça circule tout le temps, que lui, il nous donne, que lui, on lui rende gloire, etc. Et à un moment donné, à partir de la chute, c'est à partir de là que cette circulation s'est arrêtée, que nous, on a décidé d'utiliser pour nous, de ne pas redonner, qu'au sein du couple, qu'au sein de, entre Adam et Ève, qu'entre Caïn et Abel, etc., et au sein de l'humanité, on a décidé de dire, c'est fini maintenant, moi je prends pour moi, je vais pas, je vais t'exploiter, je vais t'utiliser pour moi, je vais pas utiliser ce que j'ai reçu pour toi, etc. Et vous voyez que là, le projet de Dieu, qui était cette générosité, ce don de soi, cette circulation permanente, a été interrompu. Si vous regardez la création, et c'est pour ça que j'ai pris aussi ce symbole, c'est que dans la création qui est faite par Dieu, c'est pas étonnant, on retrouve cette circulation dans les saisons. Par exemple, dans la création, vous n'avez pas de déchets. En ce moment, les feuilles de l'automne tombent, elles vont être recyclées par la terre, elles vont être réutilisées, elles vont nourrir la terre. Donc les arbres produisent des feuilles que finalement elles rendent au sol qui va se fertiliser. Il y a cette circulation permanente dans la nature que nous on a pu su imiter, puisqu'aujourd'hui nous on prend, on consomme, on garde, on accumule, puis on jette. On redonne pas, on rend pas. Et ça, c'est un des gros problèmes qui conduit inévitablement à une crise écologique, c'est qu'on respecte plus l'ADN de Dieu qu'il a placé aussi dans la création, qui est un principe de circulation. On reçoit, on a le droit d'utiliser, mais quelque part, on doit rendre après, sous une forme ou sous une autre, de manière qui ne soit pas un déchet, qui ne soit pas polluant, mais qui permette à ce que cette circulation continue. C'est l'ADN même de Dieu, et on le voit dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a fait pour nous en Christ. Et c'est ce qu'on lit justement dans ce chapitre 2, avec Christ qui donne sa vie, qui renonce à tout ce qu'il a pour notre salut. Alors peut-être une des questions clés pour nous, c'est de savoir, mais qu'est-ce que j'ai à donner finalement? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je peux donner? Ici, dans le texte qu'on a lu, les Philippiens, donc prenons l'exemple d'une église. L'église, donc ils avaient visiblement certaines ressources financières qu'ils ont pu partager. Ils ont pu envoyer une personne, donc ils avaient aussi des ressources humaines qu'ils ont décidé d'envoyer à Paul. Et puis ils ont envoyé des nouvelles, des encouragements, ils ont envoyé de la prière. Des choses typiques qu'on fait en église, que vous faites aussi, j'en suis certain, donc où on peut manifester cette générosité, cette forme de don de soi, donner une partie de nos ressources, donner une partie des personnes qu'on a pour servir ailleurs, donner des nouvelles, encourager, etc. Garder le lien. Paul, de son côté, lui aussi donne des nouvelles, il donne de l'enseignement, il a donné de sa personne. Paul a envoyé Timothée, son enfant spirituel, puis Paul s'est donné lui-même quelque part, jusqu'à aller en prison. Donc voilà le genre de choses qui circulaient là entre Paul et les Philippiens. Les deux personnages, ou les trois, il y a Paul aussi, mais qui sont donnés finalement au cœur de ce récit, ce sont des personnes qui sont données. Et je pense que la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est aussi les personnes et c'est les relations. Timothée, lui, était fils d'une mère juive et d'un père grec. Il a été enseigné visiblement par sa mère et sa grand-mère dans la foi. Il était jeune. Il a peut-être été aussi vivement emprisonné, d'après Hébreux 13, mais on n'a pas beaucoup de précisions là-dessus. On ne connaît pas énormément de choses sur lui, mais ce qu'on sait, c'est que Paul s'est attaché à lui lors de son premier passage à Lystre, lors de son premier voyage missionnaire, et du coup, lors de son deuxième voyage missionnaire, ensuite, il l'a emmené avec lui. C'est pas moi. Ce qu'on sait aussi de Timothée, qui était jeune, c'est qu'il était timide et qu'il était sensible, d'après 2 Timothée. Si on regarde à l'histoire de Timothée, c'était quelqu'un de normal, que rien ne prédisposait nécessairement à devenir un personnage qui occupe une place importante dans les Épîtres et dans le Nouveau Testament. Épaphrodite, dont il est question ici aussi, est quelqu'un qui était un chrétien de Macédoine, de Philippe. Donc il avait probablement une origine païenne, et son nom signifie avenant ou aimable. Et Paul l'appelle votre délégué. C'est un terme qui est parfois aussi utilisé pour traduire apôtre, mais on n'est pas certain que ça soit un titre ici. On ne sait pas si Épaphrodite était un ancien, ou s'il avait un titre particulier, ou si c'était un simple membre de l'Église. En tout cas, ici, il a servi de messager, et quelque part de banquier, ou en tout cas de convoyeur de fonds, pour apporter un don à Paul. À Rome, il a été tellement malade qu'il a failli mourir. Et on voit cet ADN hein, chrétien, cet ADN des gens du royaume de Dieu. Quand il est malade, ce qui lui fait il s'inquiète le plus, pas pour lui, mais pour les gens autour de lui. Il était tourmenté, il était fort en peine pour que les gens, parce que les gens se faisaient du souci pour lui. Et l'expression qui est utilisée là, hein, quand il est question de tourmenté, de fort en peine, c'est la même expression que Christ dans le jardin de Gethsémané. C'est des gens qui étaient des imitateurs de Christ et qui... Leur vie à eux n'était pas ce qu'il y avait de plus important. Il y avait d'autres choses qui passaient avant. Finalement, c'était des gens ordinaires. Timothée, Epaphrodite, c'était pas des gens qui semblaient inaccessibles et qui ont été utilisés pour l'œuvre de Dieu. Et moi, je trouve que c'est un encouragement dans le sens de l'impression qu'on a tous quelque chose à donner et que chacun de nous, on peut être des Timothées, des Épaphrodites, des gens qui sont utilisés par Dieu et qui pourront être donnés pour son œuvre d'une manière ou d'une autre, là où nous sommes placés. Et ça, ça concerne ceux qui sont aux extrémités de la terre, ça concerne ceux qui sont en Samarie et ceux qui sont aussi à Jérusalem. Ça concerne ceux qui sont à Tonon ici, ceux qui sont ailleurs. Ça concerne les missionnaires que vous envoyez et vous soutenez, mais ça concerne aussi vous, à Tonon ici. Vous avez quelque chose à donner avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec le quartier, le lieu, là où Dieu vous a placé. Vous avez quelque chose à donner. Et si vous vivez selon cet ADN, que ce que vous recevez, au lieu de le garder pour vous, vous le mettez à disposition des gens, et ben vous êtes des témoins de Christ. Parce que ça, c'est la manière d'être de Christ. Alors si l'habitation que vous avez, peut-être c'est une belle demeure, peut-être c'est un appartement tout simple, mais si vous l'utilisez pour accueillir des gens de votre entourage, si vous utilisez peut-être le temps que vous avez, si vous n'avez pas du temps, vous avez peut-être d'autres choses, des compétences, des ressources, et ben que vous les donnez aussi autour de vous, et ben vous reflétez cette valeur essentielle du royaume de Dieu qui est le don de soi. Et quelque chose qui n'est pas naturel autrement. Je reçois, je garde, ou je reçois, je donne. Il y avait les gens dans Philippiens 2:21, eux, ils cherchaient que leur propre intérêt, et non ceux de Christ. Mais dans Philippiens 1:21, il y a ceux qui font l'inverse. Christ est ma vie. Mourir représente un gain, dit Paul. Donc Philippiens 2:21 ou Philippiens 1:21, quelle est l'attitude que je choisis? Christ est ma vie ou je cherche mes propres intérêts? Moi, ce que j'aimerais vous dire, ma conviction, c'est que ceux qui gardent et qui ne redonnent pas sont finalement les plus pauvres. Ils croient peut-être être les plus riches parce qu'ils disent « je ne donne pas, comme ça je serai tranquille », mais en fait, ce sont les personnes qui vont au final être les plus pauvres, qui vont se retrouver comme cet étang où ça commence à sentir le renfermé, le moisi. Ceux qui sont riches, c'est ceux qui redonnent parce qu'ils ouvrent la place pour pouvoir accueillir de nouveau et pour que ça circule. Ici, dans ce texte, on voit que cette circulation, cette générosité, elle provoque plein de bons fruits. Verset 19. Ça, grâce à cette circulation, il y a de l'encouragement. Ça nous permet de partager nos préoccupations, au verset 21. On pourvoit aux besoins des autres. Ça donne la joie. Ça permet de s'honorer les uns les autres. Il y a quelque chose de riche, de beau qui se passe. Si chacun avait gardé ça pour soi et chacun s'est concentré sur son ministère, hein, les Philippiens de leur côté, Paul de leur côté, ils n'auraient pas eu tout cet échange et tous ces richesses qui seraient découlées. Il a été question aussi de plusieurs enterrements, des personnes qui sont décédées. J'ai entendu Antoine Gilardi, cette personne que vous avez perdue et que vous avez enterrée hier. Avant-hier, moi j'étais à l'enterrement de ma grand-mère. Et c'est vrai que quand on est face à une personne qui est en fin de vie, ça nous rappelle quelles sont les choses les plus importantes. Et quand vous lisez le parcours de vie de la personne à l'enterrement, ou quand vous voyez les personnes qui sont là, etc., eh bien on voit aussi ce que la personne a semé dans sa vie. Et si la personne a beaucoup accumulé pour elle, finalement on se rend compte qu'à sa fin de sa vie, il y a une certaine pauvreté qui est là aussi. Tandis qu'une personne qui aura vécu dans un principe de générosité et de don de soi, quand on fera le bilan de sa vie, à la fin, on se rendra compte qu'elle a été riche, que beaucoup de personnes sont là pour dire qu'ils sont reconnaissants, qu'elle leur manque, qu'elle a été une personne précieuse pour elle. Et cette personne-là qui aura vécu dans ce don de soi sera une personne qui laissera derrière elle un héritage beaucoup plus grand et qui en retrouvera aussi un beaucoup plus grand, un trésor céleste, je pense, d'autant plus grand aussi. Alors voilà, moi j'aimerais vous encourager à vivre ça. C'est un rappel, parce que je pense qu'on le sait chacun de nous, que le don de soi, c'est, C'est le principe, c'est un principe fondamental du royaume de Dieu, mais c'est simplement un rappel à le vivre. Paul, lui, a donné ce qu'il avait de plus précieux, il a donné son fils spirituel. Et c'est pas sans faire penser à Dieu qui lui a donné ce qu'il avait de plus précieux, qui a envoyé son fils Jésus-Christ. On a pris la scène dans ce sens-là. Et donc pour nous, ça, c'est normal aussi de donner ce qu'on a de précieux, parfois peut-être de plus précieux, et de le donner à Dieu. Pour résumer, moi je vous invite donc à vivre une grammaire renversée, hein, c'est les pronoms personnels, je crois, je, tu, il, c'est les pronoms personnels, c'est juste, ça date. Hein, alors voilà, c'est je, ensuite c'est suivi de tu, c'est suivi de il, hein, c'est comme ça qu'on apprend, c'est bizarre, ça commence par je. Eh bien, dans le royaume de Dieu, moi je crois qu'il faut inverser ces pronoms personnels. On commence par il, on continue avec tu, et on finit par je. Voilà, si vous mettez en place cette grammaire dans votre vie, eh bien vous mettez en place la grammaire du royaume des dieux. Voilà, que Dieu vous bénisse dans votre marche à sa suite. Je vous invite à prier.